Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Vous le savez, il sonne 11h, passé de quelques instants sur la 93.5. Et vous savez qu'à 7h, nous démarrons l'émission Club de la Presse. Bienvenue au club sur 180 pays classés cette année. Le Togo occupe le 121e place en matière de la liberté de presse. C'est ce qu'on peut noter dans le classement du Reporters sans frontières, le pays perd 8 places comparativement au dernier classement. Amnesty International rapporte que la liberté des médias est menacée avec des suspensions de journaux et des peines de prison infligées à des journalistes pour diffamation ou publication de fausses nouvelles. Selon le Reporter sans frontières, la situation actuelle appelle à une mobilisation accrue des acteurs nationaux et internationaux pour défendre la liberté de la presse au Togo. Que vous inspire ce classement du Reporter sans frontières? Nous abordons le sujet dans cette émission Club de la Presse et nous aborderons également ou nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Et merci alors de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 6 mai 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etekossi d'Ateli assure la mise en onde. Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nikro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM. Nous sommes dans la région centrale à Soukoudé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Bada près de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Comme vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères, journalistes en studio avec moi, Eric Parkoudjo-Josson. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Dieu merci et merci surtout d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Nous sommes mardi et mardi, vous savez que Claude Assiobotis, notre chroniqueur littéraire et conseiller littéraire aussi, est avec nous, critique littéraire également. Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, puisque je me suis endormi le 1er mai et je me suis réveillé aujourd'hui.
Ah bon?
Pour sauter des événements.
Attends, est-ce que vous avez sauté vraiment des événements? Mais si vous avez conscience que vous avez sauté des événements, ça veut dire qu'entre-temps, on vous a raconté quand même ces événements.
Je ne sais pas. J'ai appris qu'il y a un cauchemar qui, en plein jour, qui va tomber. Et je me suis évanoui.
Ah bon?
D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est ce matin que je me suis réveillé.
Dieu merci. Ben, c'est ce qui est sûr. Je vous rassure que vous avez raté beaucoup de choses.
Ah bon?
Oui, vous avez raté beaucoup de choses.
C'est un avis, c'est votre avis.
Oui, mais justement, on vous informera tout de suite.
D'accord. Je refuse d'être informé.
D'accord. C'est vrai que les faits historiques récupérés dans la fiction togolaise, roman et théâtre, surtout, cette grande thématique, nous allons la clôturer, mais en deux temps, je veux dire deux chroniques. Aujourd'hui, ce sera la synthèse. La prochaine fois, une ouverture sur une ou deux œuvres scientifiques historiques, notamment, et annoncer si possible notre prochaine thématique. Alors, Claude, quel est ton bilan sur notre thématique, sur le répertoire des segments historiques et les œuvres y afférentes?
Oui, ici, nous avons parlé de beaucoup d'œuvres. Et des événements historiques aussi, et je parle des œuvres qui les ont illustrées. Si on veut parler des faits historiques, on peut, chronologiquement, on peut parler d'abord de la période de l'esclavage clandestin sur la côte Togo, Bénin, Nigeria, et surtout vers le Brésil, l'esclavage vers le Brésil. Et là, nous avons le roman d'esclaves de Kanyalem. Après, nous avons une pièce de théâtre, La guerre civile des Apoutagas de Apedo Ama Toguata, précisément sur la division du royaume esclavagiste d'Anéra entre Guin et Milan, à Digo et à Kagban, ce qui a facilité la pénétration coloniale, ce qui a contribué à faciliter la pénétration coloniale. Nous avons la période coloniale même. Et là, nous pouvons citer la bande dessinée, une bande dessinée, si le Togo m'était compté, dont un auteur, c'est une œuvre collective. Je cite un des auteurs qui est Kofi Yassem, et ils ont insisté surtout sur les conquêtes coloniales. Et je peux signaler qu'ici, il manque d'illustrations littéraire togolaise sur la résistance des peuples qu'il a eu face à cette colonisation. Et à vos plumes, ceux qui sont peuvent être inspirés sur cette période-là. Bon, et ensuite, il y a eu la période des indépendances et leur confiscation. Et là, nous pouvons citer une pièce allusive et symbolique, pas interprétation, et c'est Un jour la comédie de Ce nouveau Agbota Zissou, c'est une nouvelle allusive. Et il y a une nouvelle très réaliste, très percutante. Un fait divers, ou tout le recueil qui est un fait divers d'espoir, de Rita Mesa Amenda, sur les comédies et les brutalités de la post-indépendance du Parti unique. Il y a eu la période d'ouverture démocratique après la chute du mur de Berlin. Et là, nous pouvons citer une pièce de théâtre, et La folie de Salomé de Sekou Kadagabalo sur les errements de l'opposition politique. Et là aussi, il y a un manque d'illustration littéraire dans la littérature togolaise. Sur l'épopée de la lutte démocratique. S'il y a des gens qui sont inspirés par l'histoire, à partir du 5 octobre jusqu'au mois 2005, il y a une épopée là qu'il faut jusqu'au basculement de Jésus-Christ. Il y a une épopée qu'il faut décrire là. Ceux qui sont inspirés peuvent y aller. Et je peux citer mes propres œuvres. Un essai, L'amour et le sang, une pièce de théâtre, La succession, trois romans, Pêcheurs de sirène, Les frères Siamois, La mort d'Agbeto, sans être consacré à l'histoire. C'est des œuvres qui abordent pas des détours symboliques, Et tous les thèmes que j'ai cités, esclavage, colonisation, confiscation des indépendances, et surtout les indépendances décapitées. Voilà. Voilà, gros.
Bon, les indépendances décapitées.
Il y a eu des œuvres, hein, et, surtout au niveau des indépendances confisquées. Et c'est aux auditeurs, aux éditeurs de nous aider, même les auteurs. Je peux citer le compte rendu de comment vous dites, Baudelaire, hein, oui. De Baudelaire, Blanche. Et Banou, le bal de fou, et même, on n'en a pas parlé, c'est bien connu. Le livre de Kanyi Alem, par où il est entré, par la grande porte en littérature, et Chemin de quoi. Voilà, merci.
D'accord. Oui, ben, Claude, il se dégage de notre parcours, hein, que beaucoup d'écrivains ont fait surtout une fouille politique de notre histoire. En tant qu'écrivain togolais, toi-même, hein, et chroniqueur, quel est ton regard aujourd'hui sur l'histoire de notre Afrique, d'abord, et du Togo ensuite?
Bon, je vais vous dire quelque chose. De par ma culture humaniste, je suis devenu aussi modestement un écrivain. J'ai appris par ma culture humaniste, hein, je suis formé par les humanités, j'ai fait les lettres. J'ai appris que l'homme est un animal capable de prendre de grands risques, hein, et de mettre en danger les hommes, les autres. Hein, simplement par ses petits intérêts, l'homme est capable de mettre en danger le monde entier. L'homme, c'est ça l'animal homme. C'est pourquoi dans les pays, beaucoup de pays qui sont avancés, la loi est sacralisée. La loi est sacrée. Mais en Afrique, nous nous amusons avec la loi. Sans mentir. C'est lorsque les autres nous regardent. Et nous, lorsque nous regardons dans le miroir, le constat, c'est que en Afrique, nous nous amusons avec la loi. Nous avons des États sans loi. Nous aimons ça.
Mais en fait, dans nos États, c'est vrai que ces lois existent, mais le souci, souvent, c'est que on n'arrive pas à appliquer ou à mettre en œuvre ces lois.
Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. C'est pour la forme.
Puisque une loi sans application n'existe pas.
Loi. Celui-là, on est dans un état de nature. Hein? Et je ne vais pas me définir comme un afro-pessimiste, comme certains le disent. Mais moi-même, je vais me définir comme un afro-inquiet. Un afro-inquiet. Hein? Et je me sens comme un enfant métisse, issu d'un père braqueur qu'on appelle l'Europe, et d'une mère prostituée. Hein? Je veux parler de l'Afrique des militaires affairistes et des intellectuels vils. Hein? Est-ce qu'il faut même parler d'intellectuels? Parce que ils sont intellectuels au sens simpliste, parce que le vrai intellectuel ne sépare pas science et conscience. C'est ça le vrai intellectuel. C'est ça le rôle de l'idée de l'intellectuel. Dans sa famille, dans son quartier, il ne doit pas séparer science et conscience.
Et alors, ça me rappelle
la citation de Rabelais.
Voilà.
Qui dit science sans conscience n'est que ruine
de l'âme.
Oui. Alors voilà. Mais pourtant, l'Afrique a de nos potentialités. Hein. Je ne veux pas citer nos potentialités matérielles en richesse, mais minières, tout ça. Nous avons beaucoup de ressources humaines aujourd'hui, notamment de grands intellectuels, des techniques, mais tourner que l'Occident exploite parce que ces intellectuels sont humiliés et sous-exploités chez eux. Vous voyez ça? Et en général, on remarque que l'Afrique tourne en rond. Nous avons trop de difficultés à articuler la force et la loi. Il faut la force, oui, bien sûr. Hein? Il faut mettre la force au service de la loi. C'est ça. Mais nous faisons l'inverse. Nous mettons la loi au service de la force. Nous sommes des êtres curieux dans l'histoire.
Nous sommes vraiment des êtres curieux dans l'histoire. Et Cloton, c'est vrai que...
Oui, vas-y.
Oui, mais c'est vrai que ces derniers temps, quand vous écoutez les grands observateurs, enfin, les observateurs hein, de la vie politique et tout dans le monde entier, c'est vrai qu'ils parlent plus alors de l'Afrique qui doit être le continent de demain. Est-ce que c'est du leurre?
C'est à voir. Bon, moi, pourquoi je me suis défini comme un Afro-inquiet? Je crois que nous ne sommes pas des gens qui seront totalement sacrifiés à long terme par l'histoire. Hein, nous sommes intelligents, nous avons des ressources humaines. C'est l'environnement qui nous fait défaut. Lorsque l'environnement serait propice, tout ce gisement que nous avons dans la diaspora, mais ils reviendront, ils n'ont pas voyagé pour rien. Hein. Ils ont des idées, ils ont vu, ils ont voyagé, ils vont revenir, il y aura beaucoup de choses. Hein. Le jeu aujourd'hui, sur le terrain de l'Afrique même, le jeu politique est... Pour faire la politique, il n'y a que deux choses. On fait le jeu sur le terrain du droit ou le terrain de la force. Mais lorsqu'on privilégie le terrain de la force, le message est le suivant. On invite les autres, ceux qui ne sont pas d'accord, à aller chercher la force. Est-ce que vous suivez? On les oblige à aller chercher la force. Hein? Et on est là, fort, on est en supplice, tant qu'on est fort. Et voilà, tant qu'on est fort, on est sur place.
D'accord.
Est-ce que vous voyez?
D'accord.
Et voilà, ben, c'est ça l'Afrique. Hein? Et si nous le prenons dans les pays, les par région, à part l'Afrique du Sud, le Botswana, tout ça, l'Afrique centrale est une honte. L'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO politiquement est un chaos. Ils ont gardé quand même une certaine boussole économique. Et ce qu'on fait aujourd'hui, l'AES, beaucoup applaudissent, pour moi c'est trop tôt. Et ça me semble de l'improvisation. Et je les invite à ne pas oublier le sujet essentiel. Le premier sujet qui est le djihadisme. Et ne pas en faire un alibi pour faire un pouvoir à vie hein, et mettre la loi au service de la force comme les autres. Mmh. Maintenant le Togo. Je veux le Togo.
Et bien rapidement.
Rapidement. Il y a d'abord la classe politique, le pouvoir. Et lorsqu'ils parlent de paix, ils se comparent à quel pays? À Haïti? Je ne sais pas quel pays le Togo, le pouvoir se compare lorsqu'il parle de paix. Souvent, ça sort de leur bouche. La paix. Ils se comparent à Haïti ou au Soudan. Hein? Et est-ce que la paix pour eux, cette paix-là dont ils parlent là, ils voient que qu'il y a au Togo, là, ça manque dans la sous-région ici. Le Ghana, ça manque. Pourquoi ils parlent tant de paix? Hein? Et la paix veut dire interdiction de manifestations populaires, c'est ça? Hein? Et il parle aussi souvent de développement, c'est leur mot phare. Et je ne crois pas à un développement sans adhésion populaire. Hein? L'adhésion populaire est indispensable dans un régime, même monolithique, comme le Rwanda. Même monolithique, il faut l'adhésion populaire. Sinon, vous n'aurez pas sans adhésion populaire, vous n'aurez pas de résultats. Et vous serez entre de prédateurs. Hein? Qui vous protège et qui vous demande des rançons. Et la rançon, c'est la prédation. Vous êtes obligé de la payer.
Ah, d'accord. Bon, ok.
Alors, merci. Je peux m'arrêter là-bas?
Oui, on reviendra là-dessus déjà, puisque nous avons dit que c'est pour ce qui concerne la synthèse. D'accord. Nous allons faire la synthèse aujourd'hui.
J'ai voulu dire deux mots sur l'opposition aussi, parce que je n'ai parlé que du pouvoir.
Oui, mais allez-y maintenant, oui, rapidement.
Le pouvoir, il y a deux. Il y a, en parenthèse, je veux dire que. Je crains une chose, que je vais le dire, il faut que je le dise. Et la 5e République, là, je crains que ce ne soit une consécration de la division nationale. Je crains ça, sur papier. Je crains. C'est une sainte crainte, je peux me tromper. Hein? Et je veux parler de l'opposition. Il y a deux. Il y a une opposition qui a un discours de capitulation. À la limite, c'est une opposition alimentaire, on les connaît. Et il y a une opposition qui a une sympathie, malgré tous ces errements, parce que le discours dur de leur discours, c'est le refus de l'injustice criarde. Eux, aujourd'hui, ils sont affaiblis, mais le discours va rester. Va rester. Soyez sûr.
D'accord. Ok, merci beaucoup, Claude. Oui, Eric, oui. Vous avez écouté Claude.
Non, non, par rapport à tout ce que. Enfin, ce résumé, je veux dire tout simplement que. Que Claude ne dise pas que c'est uniquement en Afrique qu'on ne respecte pas la loi. Hein, il faut regarder un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde où les gens prennent la loi comme, je ne sais pas, un élément d'oppression plutôt.
Un exemple
En Russie.
Oh, la Russie, c'est une dictature.
Ah non, tu vois, donc c'est pas qu'en Afrique qu'on ne respecte pas la loi.
C'est une exception.
C'est pas une exception. Je peux parler des États-Unis aujourd'hui.
États-Unis, de l'autre côté, souffrent, hein, dans les mains de la Cour suprême.
On laisse y aller.
Parce que pour moi, quand on dit l'Afrique, toi-même tu es inquiet pour l'Afrique, mais je pense que. Si tu compares l'Afrique aujourd'hui à d'autres endroits du monde, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on ne respecte pas la loi.
D'accord. Mais merci beaucoup, Eric. Bonjour, Isidore Collin.
Bonjour, Pascal. Bonjour, Eric. Bonjour à notre chroniqueur. Et bonjour à l'invité dont j'ai... Enfin, le confrère dont j'étais le nom, je te laisse.
Bonjour, Jean-Baptiste Atissot.
Bonjour, Pascal. Bonjour.
Donc, j'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce à Dieu.
Je voulais rebondir. Et je suivais en arrivant que Claude s'est évanoui, le premier ou bien le deux.
Le premier.
Et n'a rien vu, mais...
Pour sauter des événements.
Quelles seront tes inspirations le jour où tu vas écrire?
Mes inspirations.
Oui, viendront d'où? Ou bien tu es déjà ressuscité.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça a été ironique parce que vous avez parlé de secteur public maintenant. ça veut dire que vous avez suivi l'événement.
C'est un sujet qu'on connaît sans l'avoir traité.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste.
Au fait, notre chroniqueur a quand même soulevé la réalité dont souffrent certains pays africains. Parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, certains nombres pays du continent, on voit que la voix du peuple n'est pas entendue et certains dirigeants font de leur tête. Et c'est ce que nous remarquons. Mais si on ne doit pas quand même occulter la réalité, c'est dans les pays francophones où ce mépris de la population est de mise, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglophones, et où les alternances sont plus ou moins régulières et ne souffrent pas de contestation. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas, et on croit que dans les pays francophones, on croit que on doit perdurer comme ça, alors que l'Afrique évolue. Et les mentalités aussi changent, donc on ne doit pas quand même perdurer avec les mauvaises intentions les fins de confiscation de pouvoir, alors que normalement quand vous gouvernez un pays, vous gouvernez pour pour que les populations soient derrière vous. Quand on ne sent pas ça, on ne sent pas d'adhésion et que les gens font de leur tête, je crois que il y a une fissure
pour le bonheur de la population.
Pour le bonheur de la population, mais quand vous gouvernez que
derrière vous,
vous n'avez pas l'adhésion populaire, je crois que vous allez buter.
D'accord.
Est-ce qu'on va ressusciter Agbota Zissou?
Vous serez avec nous pour la suite alors de ce débat, exceptionnellement, bien sûr. Alors, sans transition, parce que déjà, nous parlons ainsi alors politique, et là, nous allons aborder le premier sujet de notre émission. Le premier sujet, bien sûr, tout le monde le sait, et c'est ce sujet qui est dans l'actualité. Alors, depuis le samedi, Eric, on sait que le Togo est rentré dans la 5e République, à proprement dit, déjà le samedi dernier. Vous écrivez, vous revenez sur le sujet, vous écrivez 5e République du Togo. On y est totalement. Et vous citez la prestation de serment, bien sûr, du président du conseil. Vous écrivez nous, Fonia Simbe, président du conseil, et 3 points de suspension. Et également, vous citez la prestation de serment également du président de la République. Vous écrivez 3 points de suspension. Nous, Jean-Lucien Kouassi, l'Anansavi de Tové, président de la République togolaise. Je parle de Eric. Eric, finalement, tel que vous l'avez écrit, nous sommes rentrés totalement dans la 5e République.
Eh oui. Et il faut déjà commencer par se dire que la 4e République est rentrée dans l'histoire. Aujourd'hui, vous savez, avec. Oui. Selon moi, bien sûr.
Eric, allez-y.
Non, il faut que je lui réponde.
Non, mais...
oui, selon moi, Jean-Baptiste. Selon moi. Mais tu me diras, selon toi, dans quelle république tu es. Bientôt.
Évidemment.
Tu me le diras.
Évidemment. Et s'il te plaît, vas-y.
Il devrait me laisser parler.
Tout à fait.
Il me dit selon moi.
Non, il faut y aller maintenant.
Je fais mes analyses.
Oui.
OK. Et donc, je crois qu'avec... l'installation du président du Conseil et du président de la République, nous sommes effectivement rentrés dans la 5e République dont les institutions sont basées sur la Constitution de du 6 mai 2024. Et donc, aujourd'hui, on a un président du Conseil. On a un président de la République, mais chacun avec ses prérogatives. Et je crois que...
Ses attributions.
Oui, ses attributions. Oui. Et je crois que ces attributions-là sont consacrées par la Constitution du 6 mai 2024. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que désormais, il n'y aura plus d'élection présidentielle. Il y aura
au suffrage universel direct.
Un régime parlementaire. Tu peux me laisser.
On peut laisser Eric continuer d'abord. Vous aurez aussi le temps de parler.
Tu auras le temps.
Eric, non, s'il vous plaît. C'est le débat pour que des gens nous suivent à la maison. Il est très important quand même qu'on laisse l'autre parler. C'est important. Eric, s'il vous plaît, allez-y.
Je pense qu'il est en train de. Il voulait que je dise que le président de la République sera élu par.
Mais on lui donnera aussi la parole. Oui, on lui donnera la parole et il va le dire aussi.
Pas encore dans les détails. Moi, je dis tout simplement ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Après, on pourra
aller
dans les détails. Et donc, désormais, il y aura un président du Conseil dont les attributions constituent en réalité les pleins pouvoirs de l'exécutif. Et comme tel, les élections législatives seront les élections les plus courrières à faire maintenant, parce que avant c'était les élections présidentielles, mais là il faut se baser sur les élections législatives où le parti majoritaire va nous donner le président du conseil. Et après, il y aura un président de la République qui sera élu par les grands électeurs, comme on les appelle entre...
D'accord. Oui, Isda, comment vous avez vécu la journée du samedi 3 mai 2025?
En tant que citoyen résigné. En tant que citoyen résigné, et pour ce qui s'est passé, je me suis posé beaucoup de questions. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y avait passation des témoins? Il n'y a pas eu de passage de témoins. C'est comme si le Togo renaît, ou est né de nouveau, ou il n'y a pas eu de continuité de l'État. le président du Conseil des ministres. Pourquoi on a... Maintenant, il y a du sinologisme, mais il ne veut plus parler de président du Conseil des ministres. Il parle du président du Conseil, alors que c'est président du Conseil des ministres. J'en viens maintenant à leur fonction. Vous prenez la fonction du président du Conseil des ministres. Il est chef du gouvernement. Le président de la République est chef de l'État. Là, il va se poser un problème de préséance dans le protocole officiel. Quand je lis les attributions, je constate qu'il y a une subtilité indigne d'une république qui se veut d'un régime parlementaire. Les attributions qui doivent relever de la présidence de la République, du président du chef de l'État, sont encore renvoyés au président du Conseil des ministres, qui n'est que le premier ministre. Pourquoi il ne veut pas cette dénomination premier ministre? Aujourd'hui, il y a une confusion monstre dans la tête des gens. Qu'on a deux présidents? Non. On a un premier ministre et on a un président.
Mais dans l'appellation, ce n'est pas comme cela.
Laisse-moi terminer.
Non, mais justement.
Laisse-moi terminer. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé par leur fonction. Le président du Conseil des ministres est chef du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres. Point. Il préside le Conseil des ministres. Tout comme les autres ont eu à le faire. Mais aujourd'hui, on veut insinuer que parce qu'on a trouvé un néologisme, au lieu de l'appeler premier ministre, on l'appelle président du Conseil des ministres. Donc, il est devenu président avec toutes les prérogatives et les attributions. Ce n'est pas normal.
D'accord. Jean-Baptiste Atissou, c'est vrai que quand on prend aujourd'hui cet événement, c'est-à-dire depuis le samedi 3 mai, on dira que le Togo a basculé dans la 5e République avec les grands événements que nous avons tous ensemble vécu déjà le samedi. Alors, donc on parle alors d'alternance. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment cette alternance?
Quelle alternance?
L'alternance au sommet de l'État.
Avec qui?
Il y a un nouveau président, le président de la République maintenant.
Vous avez un président de la République? Moi, je n'en vois pas. Vous savez, je crois que nous devons être réalistes dans ce que nous faisons dans notre pays. Quand vous analysez très bien les attributions qu'on nous dit donner au président du Conseil... On a dit Conseil des ministres et après on nous fait croire qu'il n'y a plus de ministres dedans.
Mais est-ce que dans la mouture de cette constitution, c'est le président du Conseil?
Non.
Vous savez, il y avait une ancienne mouture.
Mais justement, on avait mis quand même des moutures lors de cette
constitution. Vous savez, moi j'ai le journal officiel de la République sous mes mains.
Mais suivez ces appellations. Allez-y, suivez votre analyse.
Ah oui, maintenant, si on nous dit qu'il y a président du Conseil des ministres et après tout, maintenant, on nous fait croire que c'est président du Conseil, tout court, ça veut dire que on enlève le mot ministre aujourd'hui. Peut-être demain, on va encore enlever Conseil et ça revient à président tout court. Ce qui veut dire que la constitution dite de la 5e République va subir de modification en modification et ce qu'on nous fait croire qu'il y a un président de la République qui est dissocié du président du Conseil des ministres, ça veut dire que les deux vont se résumer à une seule personne et c'est ce que nous constatons curieusement que aujourd'hui cette 5e République n'est qu'une permutation ou bien je dirais un transfert de toutes les compétences qu'avait le président de la République au sein du au sein de la constitution de la 4e République. Donc aujourd'hui, si c'est à cause d'un simple transfert d'attribution qu'on a modifié, qu'on a changé la constitution, j'allais dire, je crois que c'est une perte de temps pour le peuple togolais. Si c'est ça, pourquoi ne pas laisser la 4e République prospérer? Si c'est simplement à cause des attributions qu'on a fait tout ce tintamarre pour dire que on doit aller parce que les élections présidentielles coûtent trop cher, ça occasionne des pertes en vies humaines, ça occasionne ceci patata, et puis à cause de ça on va changer toute une constitution. Je crois que il fallait simplement demander qu'on fasse au niveau de l'Assemblée
une modification
simplement pour que le peuple ne subisse pas tout ce tintamarre dont on a été témoin le week-end dernier. Et donc aujourd'hui on est devenu la risée du monde entier avec ce que nous avons fait, parce que on ne peut pas comprendre si réellement on veut faire une constitution qui soit moderne, adaptée aux réalités du moment. On ne peut pas avoir, comment est-ce qu'on peut comprendre on nous dit qu'on a un président de la République qui est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois, et puis il y a les députés à côté qui sont dont le mandat est de 6 ans, renouvelable à l'éternité. Il y a le président du Conseil des ministres dont le mandat est ad vitam aeternam, et tout ça là on nous dit que c'est dans la même constitution. En fait, comment vous comprenez ça?
D'accord. Comment vous analysez tout cela? C'est vrai que vous l'avez si bien, ironiquement, vous l'avez si bien dit tout de suite que vous êtes endormi déjà le premier et vous êtes réveillé aujourd'hui. Mais quand on prend cette journée de samedi où aujourd'hui il y a eu la désignation même d'ailleurs du président du conseil et après tout également le président, enfin l'élection du président de la République, et ça amène ou ça fait basculer le Togo vers la 5e République. Comment vous analysez tout cela?
En réalité, ce film on le connaissait déjà d'avance, hein. Moi, le jour là, effectivement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas suivi un seul détail. Je n'ai pas ouvert la télé, je ne sais pas.
Mais on sait. Vous n'étiez pas intéressé?
Oui, pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Je vais restructurer mon petit discours en 3 points. D'abord, ce que Isidore a dit à propos du conseil, président du conseil. Je crois que dans un régime parlementaire, le premier ministre est très fort. C'est le tout puissant. C'est toujours comme ça. Mais ils ont fait un jeu de vocabulaire. Moi, ce que j'ai senti depuis, au lieu de dire Premier ministre, les gens ont senti dans l'opinion que comment un président va devenir Premier ministre. Alors, ils ont choisi la terminologie qui est utilisée en Italie. Le président de conseil. Hein? Et Giorgia Meloni, c'est ça son nom? C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein? Qui a toutes les attributions. Et qui a toutes les attributions, qui a tous les pouvoirs, hein, le président est là simplement à titre symbolique. Je crois que c'est un peu ça. Et ils ont fait ce jeu de vocabulaire là, hein, pour nous enfariger. Et je crois que moi, ils ont le mérite d'être quand même clairs. Hein, ils ne se cachent pas. Ceux qui initient ça ne se cachent pas. Et ils savent eux-mêmes que ils peuvent vaincre, mais ils ne peuvent pas convaincre. C'est clair pour eux. Ils savent ce qu'ils font. Ceux qui m'amusent, c'est ceux qu'on envoie sur les médias qui veulent nous convaincre que c'est maintenant, c'est le soleil qui tourne au-dessus de la terre, que le soleil peut se lever au nord. Est-ce que vous suivez? Et c'est ça le drame. Sinon, tout est clair. Tout ça, le Togolais le savait. Depuis, on sait que le jeu se déroule sur le terrain de la force. Et c'est dangereux. Et moi, ce que je crains, c'est demain le chaos.
Bien sûr.
Et ce chaos, ce n'est pas seulement... On est déjà dans un chaos, hein, un chaos politique. Mais ce chaos, et il faut... Nous devons faire tous attention.
vous ne pouvez pas en arriver là, c'est pas bien.
Non, mais justement, c'est notre.
C'est pas bien.
Je pense que.
Lorsque on force les autres à aller vers la force, c'est dangereux.
D'accord.
Un pays, il faut toujours. Lorsqu'on en arrive là, il faut tout faire pour chercher le consensus.
D'accord, merci Claude.
À l'intérêt du peuple.
D'accord.
C'est important.
Merci Claude. Oui, Isidore.
Je voulais ajouter une chose très importante
et cardinale. Un ministre ou un président du conseil, comme c'est
la trouvaille.
La trouvaille, la nouvelle trouvaille,
c'est ça.
Qui n'a pas un mandat électif. Un président de conseil qui n'a pas un mandat électif. Vous avez cité le cas de l'Italie. Elle a un mandat électif. Au Togo, il suffit d'être président du parti ou du groupement du parti politique majoritaire à l'Assemblée et de facto vous devenez président du conseil des ministres ou premier ministre. Le danger qui pointe à l'horizon, si à l'extraordinaire Unis organisait un congrès et que Faure Gnassingbé n'est plus le président d'Unis, qu'adviendra-t-il?
C'est une question que vous posez.
Si quelqu'un n'est pas président, il y aura un président, forcément.
Non, je parle du PC.
Oui, c'est clair, non?
Il n'a pas un mandat électif.
Oui, c'est clair.
Suivez bien mon
oui, regard. Je suis, je comprends, Isidore. C'est un parti organisé. Lorsqu'il y a un président qui n'est pas là, forcément, ils vont mettre en place un autre président. Et automatiquement...
Et c'est le parti majoritaire qui envoie le nom à l'Assemblée nationale.
Et c'est comme ça doit se passer. De l'autre côté, Claude parlait de chaos. Et à la fin, il dit que pour éviter le chaos, il faut un consensus. Le consensus doit se faire avec qui? Le consensus, c'est avec l'ensemble des partis politiques du pays. On ne peut pas proposer quelque chose de ce type-là et dire qu'on a un consensus si les autres partis ne viennent pas au dialogue, si les autres partis ne viennent pas discuter. C'est pour ça que je disais toujours que tout ce qui disait ici que ça ne va pas prospérer, ça ne va pas arriver, on ne peut pas faire ça, on ne va pas changer de constitution, etc., je disais toujours... Écoutez, si vous voulez une amélioration, si vous voulez retoucher à ce truc-là, il faut aller au dialogue. Il faut être présent quelque part. Vous ne pouvez pas être en dehors de la chose et demander qu'on l'améliore. De quelle manière ça va se faire si vous ne faites pas de proposition? De l'autre côté, et Jean-Baptiste disait que... Oui, on ne peut pas changer de constitution. Mais écoutez, nous sommes sur un terrain politique. Et ça, faut jamais l'oublier. Parce que ici, nous parlions de la loi. Les gens disent la loi et l'esprit de la loi. Et on dit toujours que lorsque le politicien, la loi, l'arrange, il utilise la loi. Lorsque l'esprit de la loi l'arrange, il l'utilise aussi. Et c'est ce qui se passe. Dans la même constitution, on a donné une ouverture pour qu'on puisse retoucher à la constitution. Mais malheureusement, on est en train de voir des choses qui sont allées encore plus loin jusqu'à un changement de constitution. C'est là où je dis, lorsqu'on retrouve de ces choses-là, il faut toujours s'asseoir pour discuter.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste.
Oui.
Oui.
Bon, je crois que mon ami, comment l'appelle-t-on?
Eric. Tu ne connais plus mon nom.
C'est ça. N'est pas réaliste parce que, vous savez, quand vous parlez de la constitution de la 4e République, surtout en son article 59, qui disait explicitement que pour ce qui concerne le mandat présidentiel, il faut passer par voie référendaire. Je crois que ça, là, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Ça ne souffre pas d'ambiguïté.
Et l'article dit que les 4/5 des députés peuvent aussi...
Puisque ce sera seulement la voie référendaire.
Donc ça fait une modification.
Oui.
Non, non, pas d'amalgame.
C'est ça. Il faut être clair.
Il faut
vous savez, quand vous parlez l'esprit de la loi, vous parlez de la loi, du test et puis l'esprit de la... Ça a été clair parce que ça, on dit, c'est dans un autre article, on a dit, si vous voulez, les autres articles peuvent être modifiés. Mais en ce qui concerne le mandat présidentiel, c'est par voie référendaire. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Constitution. Donc ça, là, aujourd'hui, on n'a pas fait aujourd'hui de l'amalgame tout autour de ça. C'est un coup d'État qui a été consommé. Et vous parlez entre-temps de discuter avec des acteurs. Même les acteurs politiques qui se disent modérés, avec qui le pouvoir faisait des réunions au niveau du CPC, est-ce que la modification constitutionnelle, le changement de constitution, est-ce que ce sujet a été abordé lors des travaux du CPC? Est-ce que ça a été abordé? Oui, réponds-moi. Vous avez dit tout à l'heure quand notre ennemi disait que bon, la façon dont le changement de constitution a été conduit, ça peut amener au chaos. Et vous dites que normalement les acteurs ne sont pas là à la table. C'est pas, on ne les a pas comment approcher. Même s'il y a une opposition qui ne siège pas au niveau du CPC, il y a une partie de l'opposition qui siège là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, ces acteurs peuvent nous dire que le sujet concernant le changement de constitution, ça a été à l'ordre du jour? Non.
D'accord. D'accord. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Oui, Isidore.
Il a touché du doigt le péché originel de cette 5e République. De n'avoir pas soumis à l'approbation du peuple. Ça, c'est le péché originel qui va toujours nous rattraper. Ils ont tous les moyens de faire passer par voie référendaire.
Et pourtant, lors de la prestation du serment, du PC, c'est-à-dire le président du conseil, le samedi, on a vu quand même cet engouement, cette affluence autour de la chose dans toutes les régions du pays.
Non, laisse tomber. Repose ta question.
Mais je dis...
Lors de la prestation...
Oui, la prestation du serment, on a vu quand même que...
Non, c'est après. C'est peut-être après.
Après la prestation. Après,
oui.
Là, il y a des
résultats. Il faut reprendre ta question.
Oui, juste parce que c'est quand tu dis qu'il n'y a pas approbation populaire.
Les attributs ont été donnés à Fonia Simbé. Est-ce que les attributs de l'ancien Togolais ont été donnés à Fonia Simbé? Vous étiez là-bas, non? Vous avez vu? C'est une honte nationale.
De
nous tous.
Pourquoi?
Mais parce que quand le président de la Cour constitutionnelle a demandé le grand chancelier d'amener les armoiries. Il dit qu'il n'en a pas. Il n'a pas trouvé les armoiries. Moi, j'ai eu vent de ça il y a très longtemps.
Oui.
Au temps de feu et niveau d'or.
Oui.
C'était lui, le grand chancelier.
Oui.
Et c'est suite à sa mort que Barry Boussabaki était venu.
Oui.
Donc, il n'y a rien là-bas. Qui a gardé les armoiries?
Mais...
Qui a confisqué les attributs du pays?
Alors il faut qu'on explique un peu cela. Il y a quelqu'un qui était déjà président de la République et qui a tous ces attributs-là. On va lui redonner encore?
Oh, là, mon frère, tu te trompes.
Non, je me trompe pas.
Non, tu te trompes pas. Tu te trompes.
Ça déjà.
Non.
Mais
clarifions les choses.
Clarifier comment?
Clarifions les choses.
Le truc, c'est très simple.
Non, ramenons ça à nos coutumes.
Alors,
un roi.
Oui.
Aujourd'hui, il n'est plus le roi. Mais il n'est plus le roi.
Avec toutes ces attributions-là.
Non, mais au fait, vous savez, il y a un conseil qui est garant de ces attributs. C'est pourquoi il y a comment appelle-t-on,
le grand chancelier,
la grande chancellerie qui conserve ça, ce n'est que des trucs comment dirais-je, honorifiques. Après tu remets, on remet ça à sa place.
D'accord.
Aujourd'hui, la
question qu'il faut juste se poser.
Oui.
En 2020.
Mm-hmm.
En 2020.
Oui, oui.
Lorsque Faure Gnassingbé a été réélu.
Oui, oui.
Est-ce qu'on lui a donné les attributs?
Mais il avait gardé depuis.
Oui, c'est juste.
Si c'est la même chose. Ce n'est pas normal.
Ah, mais comment ça
et ce n'est normal. Pas normal. Ça n'a ce n'est pas normal. Pas normal. Même ce sont des attributs.
Ce sont des attributs que nous avons présents du conseil. Et à qui ces attributs devaient être destinés?
Oui, mais
absolument.
Tu connais ça.
Quel n'a
pas été le
Oligui Nguema la dernière fois. On a vu ça.
Qu'est-ce que vous avez
le régime? Le régime là-bas est différent.
Non, c'est le même régime. À chaque fois, hein. Ne nous trompons pas.
Oui.
Le problème, une fois, c'est des trucs honorifiques.
C'est des attributs, c'est des décorations.
Des décorations.
Après, quelqu'un qui l'a déjà.
Il ne l'a pas. Ce n'est pas sa propriété.
C'est pas un bon
moment. Ce n'est pas sa propriété. Une fois, lors de la cérémonie, on te met en exergue, etc. Mais tu remets au chancelier, au grand chancelier, qui rentre ça à la chancellerie, au cas où quelqu'un d'autre viendra, on lui demande
de... A-t-il démissionné?
D'accord, merci.
A-t-il démissionné?
Merci
beaucoup. S'il vous plaît, merci.
Non.
S'il vous plaît. Eric et Isidore, merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, Claude.
Le
constat que j'ai fait. S'il vous plaît, votre micro est fermé. Isidore, Eric. Oui, Claude.
Moi, tout ces formalismes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'essentiel, c'est la population. Et je vous l'ai déjà dit, moi, je suis un Afro inquiet, je suis inquiet pour le Togo. Erika a sorti un mot que je partage avec lui, le dialogue. Mais le dialogue, c'est le mot magique dans une nation, dans une patrie, dans un pays. Hein? Si on est vraiment ensemble. Mais attention, le dialogue, lorsqu'on parle du dialogue, on sort un peu des sphères politiques, hein, et on revêt des manteaux qui ont une dimension assez morale. On va au dialogue avec une bonne volonté, avec une dose de patriotisme. Je n'ai pas nécessairement raison. Je dois tout faire pour que le pays soit sauvé. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais, et lorsqu'on est dans cette disposition-là, parfois même, on est prêt à faire des sacrifices. Je peux vous dire même que le Togo n'a même pas besoin d'un certain dialogue. Le pouvoir, c'est ce qu'il faut faire. La concession qu'il faut faire pour que le peuple se retrouve avec lui. D'accord. Ça, le peuple le sait.
D'accord.
C'est ça, hein, c'est ça la réalité.
Eric, hein, d'accord, merci, Claude. Et Eric, c'est vrai que le constat que j'ai fait la dernière fois lors de la prestation du serment du président du Conseil, après même d'ailleurs cette prestation, il y a le président de la Cour constitutionnelle, hein, qui a fait le bilan de 20 ans d'abord du président de la République, hein, qui est devenu président du Conseil. Et dans ces 20 ans, il a relevé en quelque sorte les grandes actions du président, de l'ancien président de la République, et par après, il a fait signifier quand même qu'il est la personne indiquée pour être maintenant président du Conseil. Finalement, est-ce que c'est son rôle?
Le rôle du président de la Cour constitutionnelle. Puisque c'est lui qui remet les charges au président du Conseil, il doit lui dire ce qu'il faut. Ça, c'est tout à fait logique. Parce que mais écoutez, oui, Isidore, c'est vrai, on ne peut pas être d'accord là-dessus, mais je pense personnellement que lorsque on vous envoie, c'est comme si on vous envoie à une compétition. On vous dit, vous allez représenter le pays à cette compétition, voilà ce dont
nous avons besoin pour que vous puissiez réussir.
D'accord. Vous pensez vraiment que c'est son rôle?
Non, non, ce n'est pas du tout son rôle. Son rôle était de donner les attributs. Et ouais, au fait, en principe, est-ce qu'un Premier ministre a besoin des attributs? Non. C'est le président de la République qui a besoin des attributs. C'est lui, les fonctions. Il ne faut pas qu'on fasse une confusion autour de ça.
Ouais.
Le président de la République est le chef de l'État. Le président du Conseil, comme vous l'avez écouté, on ne met plus ministre, je vous le concède, n'est que le chef du gouvernement. Et j'ai posé la question sur la préséance dans le protocole. C'est là où nous aurons de sérieux soucis. Ça va toujours nous rattraper.
On n'en aura pas. On n'en aura pas.
Oui, Jean-Baptiste.
Au moment où je pense. Okay.
Mais vous pensez vraiment que c'est le rôle du président de la Cour constitutionnelle?
Simplement, oui. Le président de la Cour constitutionnelle a fait du zèle. Ça, c'est du zèle d'un militant. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que président d'une institution de la République, où on suppose que vous devez être neutre vis-à-vis de votre fonction, même si vous êtes militant, le premier militant de l'UNI, vous devez quand même faire taire votre militantisme le jour-là et faire arborer votre manteau de président de la Cour constitutionnelle et afficher une neutralité. Faire la cérémonie que le peuple, simplement. D'accord. Mais ça, là, c'est du zèle. C'est ça.
D'accord.
Mais au-delà de ça, je crois que nos institutions quand même doivent aller transcender, j'allais dire, le militantisme, parce que ce n'est pas seulement au niveau de la Cour constitutionnelle que cela se remarque, c'est dans presque toutes les institutions où cela se remarque, et que aujourd'hui c'est tellement ancré non seulement au niveau des institutions, mais même au sein de l'administration publique. D'accord. Ça fait beaucoup de dommages pour le pays.
Ok, notre temps est tellement avancé. Mais on va parler un peu de nous. On parle de nous. Eric, c'est vrai, dans mon mot introductif, je le disais, que enfin, quand on parle aujourd'hui de la liberté de la presse, selon le Reporters sans frontières, le Togo a perdu déjà dans le classement 8 points par rapport à l'année passée, bien sûr. Et vous avez écrit, ou vous écrivez aujourd'hui dans le journal L'Union, état de la liberté de presse, le Togo graisse de 8 points. Et là, ce n'est pas quand même bon pour nous.
Non, non, pas du tout. Et il fallait s'y attendre. Du moment où des confrères ont été suspendus, des confrères ont été jugés, il y a encore des procès qui sont en cours, etc. Ce n'est pas une bonne chose, parce que la liberté de presse, il ne faut pas s'amuser avec ça. Sans la presse, tout ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien nos citoyens que l'opinion internationale, personne ne peut être au courant. Et il faut aménager un peu la presse. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est qu'il y a des situations où l'on peut demander aux journalistes, lorsqu'il y a des articles de presse ou des émissions radio, qui n'ont pas forcément respecté une certaine éthique, on peut demander qu'on corrige, parce que la loi aussi demande ça. Et donc, je pense qu'il ne faut pas forcément aller sur le terrain de la suspension, le terrain des procès, etc. Et de l'autre côté, nous aussi, il faudrait qu'on respecte notre code d'éthique et de déontologie. C'est très important. D'accord. Je pense que l'un dans l'autre, nous devons continuer par faire la presse et sans pression.
D'accord.
Parce que ce n'est pas seulement les embâtiments et les exils et tout ça là qui constitue la pression sur la presse, mais il y a aussi d'autres pressions comme la pression économique.
D'accord. Et évidemment, cette régression de points, de 8 points, j'allais dire, finalement, est-ce que ça ne dénote pas une condition hostile un peu à la liberté des presses?
Évidemment, je ne serai pas. On me traitait souvent d'oiseaux de mauvais augure. Et je pense que la FAD, le 2, l'OTM, a présenté son rapport.
Tout à fait, c'était le vendredi, le 2.
C'était le vendredi. Mmh. Mais quand vous faites la comparaison, vous tombez des nues. Aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, il vient de le dire, au-delà des brimades, des arrestations, des condamnations, des médias ou des journalistes, l'un des indicateurs phares au niveau de Reporters sans frontières, c'est l'environnement économique. Sans un environnement propice, économique propice à l'éclosion d'une presse libre, vous allez perdre cet indicateur. Et c'est ce qui s'est passé au Togo. En dehors de ça, il y a un chape de plomb qui pèse sur les journalistes et les Togolais. La liberté d'expression qui a engendré la liberté de la presse. Beaucoup de journalistes, y compris toi-même, nous sommes dans l'autocensure. Et l'autocensure fait que vous allez régresser dans le classement.
D'accord, ok. On revient sur, le sujet. Notre temps est déjà avancé, 30 minutes. Et Jean-Baptiste, finalement, il est difficile d'être journaliste au Togo?
Oui, naturellement. Vous savez très bien les conditions dans lesquelles nous travaillons depuis un certain nombre d'années où on n'a pas réellement une certaine indépendance vis-à-vis de ce que nous voulons des pouvoirs publics où il y a à tout moment la pression des institutions, notamment de la HAC qui est derrière nous, et au-delà de ça le gouvernement aussi qui voit surtout les médias privés comme ennemis parce que on estime que les actes comment l'appelle-t-on, répréhensible que les membres du gouvernement font ne doivent pas être dévoilés sur la place publique, et ça fait qu'il y a beaucoup de pressions qui sont derrière les médias indépendants. Et aujourd'hui, l'autre pression qui est exercée vis-à-vis des hommes de médias, c'est la pression économique où on essaie par tous les moyens de museler la presse économiquement.
De la caporaliser.
C'est ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficilement que nous arrivions à bout de nos peines.
Merci beaucoup, Claude. Vous nous excusez. Avec le temps, on ne peut plus vous donner la parole pour vous prononcer alors sur cette question de liberté de la presse. Alors, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur nos deux numéros. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'accueillir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 ou en 315. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, Pascal, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais bien, par la grâce.
C'est l'évangéliste Senghor.
Oui, c'est l'évangéliste Senghor.
D'accord, allez-y.
Bon, le vrai sens d'une vie n'est pas sa largeur ou sa longueur, mais c'est la qualité. Fin de citation. Pascal, le samedi, je suivais la chaîne gabonaise avec la prestation du président Edema, où il prêtait ses mains, il a dit qu'il ne prend pas le pouvoir pour lui-même, mais pour la sécurité du peuple gabonais, pour que le peuple gabonais mange dans leur faim, se soigne, la tranquillité des Gabonais. Ok, je m'arrête là. Je reviens au Togo. Pascal, la 5e République au Togo. Aujourd'hui, mon grand frère est fini de devenir PC et Sandy de Togo est devenu président. C'est qu'eux-mêmes, ils ont décidé. La voix du peuple est la voix de Dieu. Je le réitère encore. La voix du peuple est égale à la voix de Dieu. Mon frère et mon ami, le président de l'Assemblée, était sur son hôtel. Il parlait, il disait Dieu, 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 Dieu. Moi, étant un évangéliste, lui aussi, c'est un évangéliste. S'il savait que ça émane de Dieu ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas bien fait. Et je voudrais aussi interpeller le chef de l'État du PC. Non, je veux parler de Fonia Tindé. il est devenu le premier ministre comme Netanyahu en Israël. Dès la semaine prochaine, il commence par faire quoi? Par interpeller ceux qui ont volé le fonds du pays, excusez-moi, les données publics. Parce que le bien de l'État n'appartient pas des gens, des hommes. Lui-même, il a parlé, ça fait 20 ans de cela que c'est une minorité. Je crois que c'est maintenant qu'il a le travail. Pour travailler s'il veut bien que ce pays avance.
D'accord.
Non, je vais terminer.
Oui, oui, rapidement, puisqu'il y a beaucoup de personnes.
Je veux que vraiment, que les gens les applaudissent. Si c'est qu'ils ont fait ça pour leur intérêt, si on a qu'à rester les gens de pied derrière, je crois que ce même Dieu descendant avec les gens pour les chasser.
D'accord. Merci, Evangéliste Senghor. Bonjour, Canal FM. Le problème du Togo n'est pas du changement du régime, plutôt du changement de conscience de nos dirigeants. Je dirais que ce régime actuel causera plus de charges à l'État concernant les salaires des quatre présidents, c'est-à-dire président de la République, président du Conseil et président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et viennent s'ajouter le nombre de sénateurs et députés. Soyons honnêtes pour l'amour du pays quand on se prononce sur la situation de notre pays ou de notre chère nation. C'est Ibrahim qui nous écrit, 90 86 35 35. Allô?
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais bien, et vous?
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
Oui, c'est Roger.
Roger, vous nous appelez de quel quartier?
D'Ablogane.
Roger d'Ablogane, allez-y.
J'aimerais que vous m'aidez à mieux comprendre comment quelqu'un peut gouverner pendant 20 ans. Il ne nous a pas fait les comptes. Et aujourd'hui, les gens lui prennent comme président du Conseil. Et qu'est-ce qu'il peut nous faire? J'aimerais que vous m'aidez à mieux comprendre quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Roger. Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bonjour, Club de la Presse. Quels sont les pays qui ont adressé un message de félicitations au président du Conseil et au président de la République? Le palais de la présidence va abriter quelle personnalité? C'est Cyril qui pose cette question. Cyril d'Adamavo. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame.
Est-ce qu'on vit là? Et puis voilà, donc, ça se passe comme ça. On nous prend pour des cons, pour des Mongoliens. Voilà. Et puis, on nous gouverne comme ça. Président parti, président à vie. Dieu, Seigneur, roi. Et pourquoi ça? C'est une république. Pourquoi les gens s'amusent avec la république? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Faut se constituer un parti civil pour porter plainte contre la trahison, contre tout ce désordre à quoi on assiste. Faut qu'on se constitue. Et puis, le vaudou aussi doit rentrer dedans. Puisque les gens peuvent serment sur la Bible et ils font autre chose. Hein? Ils ne suivent pas les 10 commandements, pas tuer, pas voler, pas faire ci. Ils font tout ça là en masse. Voilà quoi. Le vaudou aussi doit rentrer dedans pour stopper ce bureau-là. Et puis, moi, je pense beaucoup. Je me dis, mais est-ce qu'on votait pour le gouvernement, ce régime, puis ils vont le gouverner, ils vont rester là-bas, gouverner ceux qui sont contents d'eux, c'est tout? Puisque leur mandat est fini depuis combien d'années? Une septantaine d'années même. Le président actuel, son mandat est fini là maintenant, les 20 ans, au lieu de 10. 20 ans, c'est fini le 5 mai. Yeah. Merci,
madame ici, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Bonjour, Canal FM. Vraiment, la presse togolaise fait du bon travail, mais le fait que nos gouvernants ne font que les mettre les bâtons dans les roues pour ne pas parler librement, c'est ça qui nous fait reculer. Mais force à vous pour le travail que vous faites. C'est André qui nous écoute depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour. Allô.
Allô.
Oui, bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, mon directeur Pascal. Bonjour, tout le plateau.
Oui.
Notre président de la République, moi, je vais toujours l'appeler comme ça, Borgna Soundé. Bon, ils ont amené la 5e constitution de la République. Certains, beaucoup de gens critiquent, d'autres de son parti ne le critiquent pas. Tout ce que moi je voudrais lui demander, il faut qu'il fasse que les Togolais soient à l'aise comme eux. Comme les Togolais ont parlé du Gabon, ils doivent manger à leur faim. Les jeunes doivent trouver du travail. Tout ce que nous, les fonctionnaires, les journalistes, les petits commerçants qui sont au bord de la route des mécaniciens, qu'ils aient ce qu'ils doivent avoir pour qu'on ne critique pas la 5e République. C'est tout ce que moi j'ai à lui demander. D'accord. Mais s'il ne fait pas ça, les fonctionnaires, les retraités, que les gens disent qu'il y a des pilleurs, tout ça, il ne vient pas, on va toujours le critiquer. Moi, je n'aimerais pas qu'on critique notre président de la République. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Simiti, pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse d'aujourd'hui, bien sûr. 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Vous pouvez bien sûr nous écrire sur ce numéro. Bonjour Canal FM. Ce qui s'est passé le samedi dernier est hors la loi et c'est dangereux. C'est Sylvain qui nous écrit. C'est la réaction, bien sûr, alors de Sylvain. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, bien sûr, au Club de la Presse de ce mardi 6 mai 2025. 90 86 35 35 91 36 63 75 91 36 63 75 c'est sûr, bien sûr, que c'est le numéro que vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse et réagir sur les différents sujets, bien sûr, débattus ici au Club de la Presse. Nous étions justement alors dans cette... Nous avons bien sûr parlé alors de ce sujet qui cristallise l'actualité. Je vais bien parler alors de du fait que le Togo a basculé dans la 5e République et avec la désignation du président du Conseil et aussi l'élection du président de la République. C'était le samedi dernier. Et donc nous sommes revenus largement sur le sujet. Nous avons parlé aussi de la presse togolaise avec ce classement des Reporters sans frontières. Sans frontières et le Togo perd 8 points par rapport au classement des Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado.
Comment allez-vous?
Ça va, et chez vous?
Bon, ça va.
D'accord.
Allez-y. Vous savez, au Togo, un président peut cacher, en cacher un autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la France qui a commencé à se moquer de nous. Donc, je voudrais demander au plateau, c'est une moquerie ou bien c'est une sollicitation? C'est une moquerie. Voilà ce que moi je propose. Le président Faure n'a qu'à retourner prendre la place du monsieur Samy de Tordu et le monsieur Samy de Tordu lui prend la place de conseil, le président de conseil. Mais ça toutefois emporter la valise qui contient le pouvoir, il n'a qu'à laisser la valise là avec le monsieur Samy de Tordu. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, monsieur Gado, pour votre intervention. Je pense que monsieur Gado, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Eric, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Non, mais c'est l'actualité sur la 5e République qui beaucoup intéressé les concitoyens. Je pense que c'est de bonne guerre. Nous sommes tous dans une nouvelle République. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le pays avance? Comment les dirigeants doivent se prendre pour que les citoyens ne soient pas déçus? Il faut forcément que les gens réagissent vivement à cela. Et bientôt, il y aura un nouveau gouvernement. On ne sait pas si c'est l'équipe en place qui sera reconduite ou il y aura de nouveaux ministres, etc. Mais il faudrait que les choses changent véritablement pour que cela soit accepté par les populations. De l'autre côté, la liberté de la presse. C'est nous, ça nous concerne, et nous souhaiterons vivement que les autorités pensent véritablement au développement de la presse. Parce que, à l'allure où vont les choses, la presse privée est en train de s'éteindre, hein, petitement. Les gens ne voient pas ça venir. Il y a de cela 10 ans ou 15 ans, nous l'avions soulevé en disant que si on n'appuie pas la presse comme il faut, il y aura véritablement... Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est sur une mauvaise... une piste descendante. Et s'il n'y a pas de soutien, on va tous dégringoler et ce sera pas une bonne image pour le pays.
D'accord. Isidore ?
Non, je prends la balle au bon pour exhorter nos autorités à sortir de leur propension à caporaliser la presse togolaise, à museler la presse critique. Ça ne leur fait pas honneur. Ça ne leur fait pas honneur.
Donc,
le fait pas, parce que c'est eux qui sont aux affaires aujourd'hui. Qu'on ne dise pas que sous Faure Gnassingbé, les choses se sont périclitées, alors que son papa fut à un moment donné à aider la presse togolaise. Ses entourages lui disent que bon, vous avez aidé la presse togolaise, je me souviens de quel annonce dans les 350 millions. Comme l'aide de l'État à la presse. Et c'est ces acteurs qui disent, vous voyez, vous leur avez donné les moyens pour vous critiquer. Et il a cru, excuse-moi, bêtement. Et aujourd'hui, nous sommes toujours à 150 millions, alors que des pays qui sont venus copier les évolutions que nous avons eues ici, en Ukraine, le Sénégal et autres, sont aujourd'hui à 2 millions pour l'aide de l'État. 2 milliards, toutes mes excuses, c'est l'astuce. 2 milliards pour l'aide d'État à la presse. Mais quelle régression. Donc, c'est un plaidoyer
d'accord.
que moi, je suis en train de faire maintenant pour ces histoires de PC ou PR. Vivement que le Togo puisse s'en sortir glorieux. Mais à la chose, les choses évoluent. Je pense que il va falloir revoir les copies.
D'accord. OK. Et Jean-Baptiste ?
Oui, je crois que, comme l'a dit mes deux prédécesseurs, en ce qui concerne la presse, je crois que aujourd'hui, comme on le dit, la presse constitue le quatrième pouvoir, mais au Togo, malheureusement, cette appréhension n'est pas du goût des dirigeants qui voient en la presse, surtout privée, un ennemi à abattre. Et le travail de construction de la démocratie que la presse privée abat, aujourd'hui, on ne constate pas cela, on ne donne pas de l'importance à cela, alors que il n'y a pas un seul jour où il n'y a aucun Togolais qui ne s'accroche à un média, soit une télé, une radio, ou bien une presse en ligne ou papier. Il n'y a pas un seul jour. Donc, le travail d'utilité publique que la presse privée abat, on doit quand même reconnaître cela de façon à ce que on puisse accompagner réellement la presse privée. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on adopte un budget de plus de 2000 milliards. Et qu'on ne puisse pas accorder un seul milliard à la presse privée. Ça ne se conçoit pas. Si on veut construire réellement une démocratie, la presse est un maillon important qui accompagne l'État.
D'accord.
Donc ça, je crois que cette aberration doit être corrigée par les pouvoirs publics. Sinon, je ne sais pas là où on va avec cet état de choses.
Est-ce que ce n'est pas fort aberration ?
Oui, c'est une aberration.
Claude, nous sommes à la fin.
Moi, je vais dire deux phrases.
Oui, allez-y.
Et je crois que nous sommes entrés dans une future ancienne république. Et deuxième chose, lorsqu'on a le pouvoir, il faut savoir jusqu'où aller trop loin. C'est important. C'est très important.
D'accord. Merci beaucoup, cette réaction pour terminer. Bonjour les amis. Le peuple togolais ne sait plus où mettre la tête avec la 5e République. je vais demander au président du conseil de faire tout pour que les Togolais mangent au moins deux fois par jour. Bonne émission. C'est Namaku qui nous a écrit ce message. Chers confrères, merci pour votre contribution à ce débat. Eric Parcou de Johnson, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci Isidore Colom. Vous êtes le directeur de publication du journal Actu Express. Jean-Baptiste Atisso, merci d'être passé. Vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site d'information Corps Diplomatique News.tg. Merci d'être passé. Merci à Claude Assiobotis, qui est chroniqueur, littéraire et aussi conseiller littéraire. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat, merci à vous. Thomas Dateli a assuré la mise en ligne. Merci à vous, Thomas. Merci également à Jérôme Bakouta qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous est offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.